se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, l'iPhone 12 64Go reconditionné est à seulement 299€.
À ce prix-là, ça me fera un super cadeau de fête des mères.
En donnant une seconde vie à un produit reconditionné en France par les experts PRS.
Elle est pas belle, la vie ?
Auchan, avec plaisir. 50€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 64Go reconditionné grade B, soit 299€ au lieu de 349. Valeur du DAS sur Auchan.fr. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Kit main libre recommandé.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
L'IGG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous au 32-16 pour discuter, pour débattre. Aujourd'hui, nos trois GG sont Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, Jérôme Marty, médecin généraliste, et Zora Habitant, cadre de la fonction publique. De quoi va-t-on parler jusqu'à midi? Tout à l'heure, à 11h20, on reviendra sur une des phrases des colères de Mila hier. Vous savez, cette adolescente qui avait été menacée de mort sur les réseaux sociaux, puisque je l'ai croisée hier, je vous le dis, elle est toujours protégée, Mila. Voilà, 4 ans après ces histoires, et qui disait qu'aujourd'hui, dans bon nombre de lycées, on avait une espèce de police des mœurs qui se mettait en place de la part de grands frères ou autres pour regarder comment on s'habillait, qui on fréquentait. C'est ce qui a visiblement coûté la vie à Chemsedine, à Viry-Châtillon. Est-ce qu'elle a raison, Mila ? Y a-t-il une police des mœurs aujourd'hui à l'école avec la religion en toile de fond ? À 11h tout à l'heure, les enfants ne lisent plus, surtout les 7-19 ans. Alors la faute aux écrans, on peut regarder aussi du côté des parents, ça dégringole la lecture et du coup le niveau de compréhension aussi. 11h pour en parler avec les GG. En attendant, parlons un peu de l'essence.
RMC, les grandes gueules.
Si on regarde depuis le début du mois de mars notamment, on est à 2-3 centimes d'augmentation pour les carburants en ce moment. Et là, depuis une semaine, c'est la moyenne. Parole d'automobiliste à la pompe.
Je suis un peu surprise, mais désagréablement, parce que ça fait qu'augmenter. À un moment donné, on ne va plus pouvoir continuer comme ça, parce que on est quand même obligé de mettre du gasoil, parce qu'on n'a pas le choix. Mais après, le reste, je ne suis pas à côté, donc pas d'augmentation de salaire. Et c'est très, très compliqué maintenant.
De toute façon, je ne peux pas faire autrement que de remplir les réservoirs du véhicule. Là, on est à quasiment 2 euros. Je mets, je sais pas, 150, presque 200 euros par mois d'essence.
L'essence, c'est jour au yo-yo en permanence. Et là, de nouveau, on est en train de friser les deux euros. Ça commence à devenir cher.
Et ça commence à devenir cher. On est face à une demande mondiale qui continue. On a le contexte international aussi, vous savez, de piraterie en mer Rouge. On a toujours le conflit avec l'Ukraine. Et donc, à la pompe... Ça remonte. Il y a aussi ce qui se passe sur les marchés. Toujours un petit peu de spéculation. Mais vous savez quoi ? On va remonter au mois de décembre dernier et écouter un certain Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Voilà ce qu'il disait.
La dernière fois, on a enclenché le système lorsque le prix du litre approchait les 2 euros. Pour moi, c'est la cote d'alerte. Si demain, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, les prix du pétrole explosent et que par conséquent, vous avez des prix à la pompe qui approchent les 2 euros, je déclencherai le dispositif d'indemnité carburant travailleur et chacune des personnes éligibles pourra aller demander à la direction des finances publiques d'avoir cette indemnité de 100 euros par véhicule assuré. Ouais.
Voilà, si on réapproche de la cote d'alerte des 2 euros, on y est. Tout doucement, on y arrive parce que les spécialistes...
Mais là, sauf que là, il fera pas de chèque.
Les professionnels vous disent qu'effectivement, là, il n'y a pas de raison que ça baisse. Donc, 2 euros à la pompe, on fait avec ou on prend un chèque. 32-16 pour le dire au GG. Jérôme, alors non, à ma droite, Jérôme Marty. Si vous n'êtes sur RMC Story à la télé, il est affligé, voilà. Le docteur Marty.
Je crois qu'on peut dire ça, ouais. Non, mais on ne peut pas avoir un prix plancher des taxes. C'est-à-dire quand le prix de l'essence monte, et qu'on limite les taxes, quoi.
C'est bien ça, la TIPP flottante.
Mais voilà, une taxe flottante, quoi. Et c'est la logique. Plutôt qu'aller faire des chèques aux gens, mais qu'on limite les taxes. L'État gagnera toujours pareil, mais l'État définit combien il doit gagner, et au-delà, il ne prend plus. Il y en a assez de considérer les automobilistes. Alors, c'est populiste de dire ça, mais enfin, on l'a toujours dit, comme des vaches à lait, mais c'est le cas, quoi. C'est le cas. La nation, là, elle gagne jamais autant que quand l'essence est chère. Donc monsieur le maire, il est très content de s'approcher des 2 euros le litre. Oui, parce que ça serait à 2,50 €, il serait encore plus content.
Sachant qu'on a de la taxe sur la taxe.
Voilà,
aussi,
il ferait quelques chèques à des gens un peu ciblés, etc. Non, tu définis, si tu as du courage politique, tu définis au-delà de tant de milliards, mais on n'y va plus, on bloque. On bloque, on fait une taxe flottante, et puis c'est comme ça. Il se gave assez, l'État se gave assez sur les taxes, sur le carburant, quoi. Ça devient impossible. Je veux dire, c'est les gens qui ont des professions qui utilisent, je pense aux infirmières notamment, qui utilisent leur voiture toute la journée. C'est un manque à gagner
que l'acte,
énorme,
elles peuvent,
sans compter
pas,
que l'acte.
Voilà, elles ne peuvent pas compenser en disant, écoutez, je suis désolé, j'augmente un peu.
Et qu'elles ont gagné en 12 ans 0,25 € de plus pour justement l'indemnisation de la distance faite en voiture, quoi. Je perds mes mots.
Zora,
je fatigue.
J'ai envie d'être cynique un peu. L'essence à 2 € et il va rien se passer. On paiera 2 €. Parce que de toute façon.
Donc on fera avec.
Bien sûr. Même à 2,10 €, 2,20 €, 2,30 €, on fera rien. On a vu des augmentations affolantes sur des tonnes de choses. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rien. En fait,
les gilets jaunes quand même.
Oui, mais il y a longtemps. Mais depuis les gilets jaunes, on a eu une inflation des prix sur l'alimentation, le transport. Il y a le nombre de choses qui ont augmenté. C'est impressionnant. Mais la réponse des citoyens, elle va plus être dans la rue. C'est amorcé une modification de sa consommation et de la façon dont on vit. C'est-à-dire que les gens éliminent le superflu, l'industrie de l'habillement est en train de s'écrouler, les gens commencent à hiérarchiser ce qui est incontournable dans la dépense et ce qui est superflu, etc. L'économie va se bloquer par une impossibilité des gens liés à leur pouvoir d'achat de pouvoir vivre correctement et ils vont trier. C'est tout ce qui va se passer. La seule réponse, elle est dans la masse. Et la masse, elle dit quoi? Elle dit l'essence, j'ai pas le choix parce que je dois circuler. Mais par contre, trois paires de baskets dans l'année, ça sera non. Voilà, un resto, ça sera non. Le cinéma, ça sera non. Donc les gens vont trier. Et quand on trie, au bout d'un moment, l'économie se bloque et terminé. Et là, l'État, c'est encore pire. Il va lui arriver pire. Que le fait que de donner des chèques pour éponger un passage d'un carburant qui a augmenté. Donc moi j'ai totalement confiance aux citoyens. Je vois partout.
En plus le gouvernement est coincé, comme le disait Jérôme. C'est-à-dire souvenons-nous que on doit faire 10 milliards d'euros d'économies. Et la Cour des comptes qui
mais nous aussi les Français on va faire des économies.
Et la Cour des comptes en demande 50 au total si on peut les trouver.
Mais les Français aussi vont répondre, nous aussi les Français, on va faire des économies.
Ce que tu disais, c'est toute la machine économique qui va se
réveiller. Ils vont moins consommer, l'État va moins percevoir.
Voilà.
Pour ça que le fait d'avoir une taxe flottante, l'État ne perd pas d'argent en fait, et tu permets aux gens de continuer à consommer.
Mais par le cercle.
Le reste, ils vont perdre beaucoup plus.
Par le cercle de la déconsommation et du tri et de la hiérarchisation de ces dépenses, et parfois les gens vous disent que en ayant éliminé un certain nombre de choses qu'ils consommaient, leur vie n'a pas changé. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Mais vous imaginez, depuis les années 80, la société de consommation qui est en train de partir en fumée, où les grandes surfaces sont en train de fermer au profit de petites surfaces, où les gens commencent à acheter beaucoup moins, à acheter par acheter du frais, acheter
revenir
du deuxième
main. Revenir à un peu
main.
De sobriété, c'est
voilà.
Peut-être plus mal.
Et
aussi,
génial.
On y est un peu contraint aussi.
Sauf
à cause des salaires.
Sauf qu'économiquement, la société, elle va être bouleversée.
Et de la hausse des prix.
Voilà.
Attends, on va écouter. Jean-Louis, je donne la parole dans une seconde. Le temps de passer par le 32-16 et d'aller dans la Meuse. Retrouver Brice qui est avec nous. Bonjour Brice.
Oui, salut les GG.
Bon Brice, comment ça se passe quand vous passez à la pompe alors?
Ah ben ça pique les yeux, hein, et pas que les yeux. Hein.
Oui.
Quand on fait que, par exemple, 66%. Du prix qu'on paye, c'est de la taxe.
Mmh. Ah oui.
Et voilà.
C'est nous. Alors, c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, au standard.
Au standard, oui.
Quand vous prenez la carte de France, si vous retirez la tâche qui s'appelle Paris, Lille, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, bref, les grosses villes, vous savez, il y a des gens qui habitent au milieu de tout ça, là. Et eux, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de transport en commun, ils prennent la voiture.
Mais oui.
Mmh. Et eux, ils se font taxer.
Là, vous êtes dans la Meuse, vous êtes à Couvenges, oui. dans la Meuse, c'est ça
oui.
Donc
ouais,
votre voiture, vous l'utilisez
en fait.
À côté de Bar-le-Duc, votre voiture, vous l'utilisez tous les jours.
Tous les jours.
Vous faites tous combien de kilomètres en moyenne?
Pour aller sur mon lieu de travail, je suis à 75 kilomètres.
Ah ouais, effectivement.
Et alors comme je suis, désolé, je vais m'attirer les foudres, je suis conducteur de train, mais vous êtes toujours ou le premier train du matin ou le dernier train du soir. Donc, vous n'avez rien pour vous emmener, rien pour vous ramener. Donc, vous prenez votre voiture. Donc, dans nos coins, tout le monde est obligé de prendre sa voiture. On n'a pas le choix.
Mais bien sûr, mais ça, on le sait.
Et vous avez quoi comme voiture, Brice? Vous avez quoi comme voiture? Vous avez un diesel, moi, j'imagine?
J'ai arrêté le diesel. Parce que vous savez quoi? 2 balles du litre de gasoil ou 2 balles du litre d'essence, parce que c'est à peu près le tarif, pas loin.
Ouais.
Eh bien, maintenant, c'est au bioéthanol. Mais je suis sûr que nos bons politiciens de Renaissance, qui sont bien gentils, vont pas tarder à nous mettre une taxe là-dessus en disant « Ah, l'éthanol, c'est pas bien, ça pollue, on va mettre une taxe ». Ben oui, parce qu'en fait, eux, la seule réponse qu'ils ont, c'est taxer pour dire « Ça va empêcher de polluer ». Mais non, parce qu'en fait, je vais continuer à mettre de l'essence, j'ai pas le choix, ils le savent. Mais c'est honteux. En fait, quand on parle, vous savez, je vais être méchant, je vous jure, je vais être méchant. Allez, je fais ma mauvaise gueule 2 minutes.
Allez-y.
Quand on dit que la SNCF prend les gens en otage, eh ben, je vous dis que moi, l'État prend les gens en otage avec la bagnole.
Et dites-moi, Brice, je vous propose de rester en ligne avec nous, d'accord?
Ouais.
Et parce que vous, justement, on a Daniel Labaronne, qui est député Renaissance, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député.
Oui, bonjour. Je suis un peu étonné d'entendre dire que les députés Renaissance augmentent les taxes, alors que nous sommes justement la majorité qui a baissé les impôts à la fois sur les entreprises et sur les ménages. Donc, il est hors de question pour nous d'augmenter les taxes, et c'est ce que nous donne. On n'a jamais augmenté véritablement les taxes.
Je peux vous poser une question, monsieur? Je peux vous poser une simple question?
Oui, bien sûr.
Elle a augmenté de combien l'électricité cette année?
Non, mais c'est pas dû à...
Non, mais monsieur, on était un pays autosuffisant en matière d'électricité. On a laissé nos centrales nucléaires dépérir sans vouloir les entretenir, et c'est une faute politique majeure. Le prix de l'électricité a explosé, a manqué de couler nombre d'entreprises. Moi, j'ai j'ai une clinique privée. Moi, mon électricité, elle a été multipliée par 15, monsieur. Par 15. Donc, ne nous dorez pas la pilule en disant, oh, on est ceux qui ont baissé le plus les taxes. C'est faux.
Mais non, écoutez, sur le sujet de l'électricité, vous savez que ce problème, c'était un problème européen.
Non, l'Europe n'était pas autosuffisante. C'était la France qui l'était, monsieur.
Attendez. Si on peut pas discuter, la question de l'électricité, maintenant, est en voie de règlement, puisque nous avons réussi à déconnecter le prix de l'électricité de l'évolution de prix du gaz. C'était ce qui se passait dans le cadre de l'Union européenne. Nous avons relancé un programme nucléaire très ambitieux qui nous permet justement de mettre en place des dispositifs de soutien, des voitures électriques, pour nous permettre d'être indépendants des fluctuations des prix du pétrole. S'agissant des voitures électriques, nous avons mis en place des dispositifs très généreux en termes de bonus écologiques, en termes de primes de reconversion, en termes de dispositifs de microcrédit pour permettre aux gens d'acheter des voitures électriques, pour justement être indépendant de ces fluctuations des prix des carburants et des prix du pétrole.
Oui, mais vous avez entendu Brice qui est toujours avec nous. Lui, il peut pas faire autrement que de prendre sa voiture. Il va pas. Vous voyez comment font les gens aujourd'hui quand ça va de nouveau s'approcher des 2 euros, ou c'est même déjà à 2 euros, monsieur le député.
On est tout à fait.
Parce que je comprends en même temps. Vous avez besoin de faire rentrer de l'argent avec la taxe. On le sait.
Mais les questions. Les questions de rentrer. D'abord. Cette taxe sur les carburants, elle permet aussi de financer nos dépenses publiques, l'éducation, la santé, la défense, etc. Enfin, c'est pas de l'argent que l'État se met dans la poche en se réjouissant d'avoir ponctionné les contribuables français. C'est aussi pour financer notre modèle social qui est extrêmement généreux.
Dans le prévisionnel qu'on suppose vous faites, parce qu'on suppose que l'État est géré en bon père de famille, le prévisionnel que vous faites, vous n'intégrez pas la hausse éventuelle de l'essence. Vous vous basez sur un prix. Donc la question, c'est pourquoi l'État ne définit pas un prix plancher pour les tarifs?
Je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque dans la loi de finances, nous avons provisionné 600 millions d'euros pour faire face à une éventuelle augmentation significative, à une explosion des prix des carburants, pour relancer le dispositif de l'indemnité carburant. Donc ne dites pas qu'on n'a rien provisionné.
Donc il pourra y avoir une indemnité carburant, monsieur Labaronne, si ça tape les 2 euros?
Alors, si les prix devaient exploser, devaient s'envoler, sans doute qu'on reconsidérerait cette disposition qui est prévue dans la loi de finances initiale pour 2024, s'agissant de l'indemnité carburant pour les travailleurs modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc, ce dispositif, il est envisagé. Notre notre position, c'est de dire il faut absolument développer l'électrique, faire en sorte que les travailleurs modestes. Oui, mais ça coûte. Mais nous avons mis en place.
Échanger de voiture. Non, mais, oui, d'accord, monsieur Labaronne, bien sûr. Mais, vous avez mis en place des dispositifs. Enfin, il faut quand même sortir de l'argent. Il faut prendre un crédit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'état des finances des Français, elles soient au beau fixe. Les salaires n'ont pas beaucoup augmenté. Il y a quand même le coût de la vie qui est là, monsieur le député.
Attendez. Ce misérabilisme. Nous avons protégé le pouvoir d'achat des Français comme personne dans l'Europe a pu le faire.
Ah oui,
c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à baisser le taux d'inflation. Nous sommes en Europe le pays où le taux d'inflation est le plus bas en ce moment. Donc c'est un moyen aussi de protéger le pouvoir d'achat des Français. Nous mettons en place des tas de dispositifs qui s'ajustent, par exemple, du chèque énergie pour prendre en charge l'augmentation l'électricité et du chauffage par les ménages.
Non mais alors attendez.
Le problème, Jean-Loup
Bonnemi, vous faites des chèques quoi.
Monsieur le député, donc déjà je vous félicite pour ce magnifique exercice d'autosatisfaction. Ouais. Je ne suis pas sûr que les Français aient vraiment l'impression que vous parliez du même pays, mais
obligé de défendre l'action que nous menons.
Ça j'ai bien compris.
Critiqué
peut-être simplement.
Un petit peu.
J'écoute ce qui s'est dit depuis quelques minutes et mon collègue dans cette émission, le docteur Marty, a très justement attiré votre attention sur la question du coût de l'électricité. Or, vous prônez le développement de la voiture électrique. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème? Alors, moi, la voiture électrique, je suis pour. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de laisser bondir, de laisser exploser le prix de l'électricité et en même temps d'encourager la voiture électrique? Pensez-vous pas qu'il faudrait, par exemple, réformer en profondeur le marché européen de l'électricité, qui est profondément dysfonctionnel, est profondément irrationnel, est profondément nuisible aux intérêts français, et y compris justement au développement de la voiture électrique en France.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et la meilleure preuve, c'est ce que nous avons fait.
Ah bon ?
Mais bien évidemment, puisque nous avons...
Je n'en ai pas l'impression.
Mais c'est ce que je vous expliquais en début d'entretien, à savoir que nous avons réussi à faire en sorte qu'au niveau du marché européen, le prix de l'électricité ne soit plus calqué sur l'évolution du prix du gaz.
Or, ça reste,
compte tenu du conflit ukrainien, nous savons très bien que le prix du gaz a augmenté de manière extravagante, et par conséquent, l'électricité qui était alignée sur le prix du gaz dans le dispositif européen a augmenté de manière extravagante. Grâce aux efforts du président de la République et de Bruno Le Maire, nous avons réussi à déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz. Par ailleurs, nous avons relancé un programme de construction, un programme ambitieux de construction de centrales nucléaires avec les EPR.
Ça prend du temps.
Oui, ça prend du temps, peut-être.
Le quotidien des Français, quand ils passent à la pompe, c'est tout de suite.
Attendez, et en même temps, nous avons été contraints par le fait que beaucoup de centrales nucléaires étaient en situation de moindre production parce qu'elles devaient faire l'objet de révisions.
Oui. Dont Fessenheim, qui a été fermé par le président de la République.
Quand il était avec...
Mais Fessenheim, tout le monde considérait que c'était sur une faille sismique et que ça présentait des dangers énormes. Donc moi, je veux bien que on accepte ce type de risque, mais le jour où ça survient, alors là, vous seriez les premiers à nous dire, mais vous n'avez pas pris vos responsabilités.
Monsieur le député, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Daniel Labaronne, député Renaissance d'Indre-et-Loire, avec membre de la commission des finances. C'est pour ça qu'il est plutôt au fait des dossiers. On va continuer d'en discuter avec vous. Carburant au plus haut, vous avez entendu. Bon, si jamais la situation devient exceptionnelle, on verra pour remettre un dispositif, un dispositif pour les plus modestes, ce qui sera quand même en contradiction avec ce que dit Bruno Le Maire. Mais enfin bon, comment est-ce qu'on fait? Comment faites-vous à la pompe? Vous faites avec ou vous attendez un chèque 32-16 pour venir en discuter avec les GG?
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules qui vous offrent votre séjour pour 4 personnes à Europa Park. N'oubliez pas, c'est un parc d'attractions qui a été élu 8 fois meilleur parc de loisirs du monde. Vous avez les entrées, la nuit dans un hôtel 4 étoiles, le petit déjeuner compris. C'est 2 jours pour 4, 2 jours de sensations et 100 attractions au total. À Europa Park, il y a 13 grands 8. avoir le cœur bien attaché. Ouais. Le 13 Grand 8, et vous pouvez aussi découvrir le parc aquatique nordique d'Europa Park. Il s'appelle Rulantica. Donc, pour gagner, vous m'envoyez RMC
c'est
par SMS.
C'est avec de l'eau gelée, c'est ça?
Comment?
C'est avec de l'eau gelée, le parc aquatique nordique.
Oh, mais l'important, c'est les Grands 8. C'est d'avoir les sensations. Et puis, t'as l'ambiance, l'atmosphère.
Non, pour mais ça gaspille l'eau, monsieur. Hein? Ça gaspille l'eau. L'eau est un produit cher, maintenant. Et rare.
Vous envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS 732-16. Allez. Vous jouez, vous gagnez, et surtout, c'est le plus important.
Et surtout, vous allez mettre de l'essence.
Vous allez vous amuser. En attendant, effectivement, on revient à notre discussion sur l'essence. On va en parler dans un instant avec Laurent. Mais tu as posé des questions aux députés, mon cher Jean-Loup, mais aux députés dépités. Enfin, toi, tu étais plutôt dépité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les Français vont subir, en fait, de nouveau cette hausse d'essence.
Ouais, moi, je pense que là, t'es sur une situation extrêmement complexe parce que ça renvoie à un problème structurel du pays. C'est qu'aujourd'hui, toute l'architecture géographique du pays pousse les gens à prendre la voiture. C'est-à-dire que t'as un emploi et une activité économique qui se concentrent dans les grandes métropoles. Un coût de l'immobilier qui est inabordable aujourd'hui, si tu veux te loger à Paris.
Là où il y a le travail.
Voilà, là où il y a le travail, c'est inabordable. Et donc des gens qui habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail et qui vivent maintenant dans ce qu'on appelle la France périphérique, où tu vis dans un endroit où il n'y a pas forcément de commerce à proximité, il n'y a pas forcément de service public à proximité, tu es obligé de prendre ta voiture pour tout. Voilà, tu es un couple, il faut deux voitures. Et tu es aussi et surtout obligé de prendre ta voiture pour travailler, comme le montrait d'ailleurs le cas de notre auditeur. Donc déjà, tu es sur un premier problème structurel, avec en plus des métropoles qui, elles, à rebours du pays, parfois pénalisent de plus en plus la voiture. Regarde la politique anti-voiture à Paris ou dans d'autres grandes villes. Donc là, déjà, tu as un premier problème. Tu as un deuxième problème que tu as souligné, c'est chez l'individu Bruno Le Maire lui-même que nous avons reçu, c'est qu'il a deux casquettes. Il est à la fois ministre de l'économie et ministre des finances. En tant que ministre des finances, surtout dans le contexte actuel, il veut faire rentrer des taxes. C'est ça son objectif. En tant que ministre de l'économie, il veut stimuler l'activité économique et faire des chèques. Et ce qui est quand même deux objectifs totalement contradictoires qui vont chacun dans un sens opposé à l'autre. Donc c'est également le problème dans lequel se retrouve le ministre. Et enfin, troisièmement, moi je ne sais pas s'il faut agir sur le prix de l'essence lui-même. Il faudrait peut-être agir sur d'autres leviers pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, sur d'autres moyens, sur le salaire, etc., etc. Le salaire, les impôts, le prix de l'électricité dont on parlait, c'est-à-dire redonner des marges de respiration français sur d'autres domaines de pouvoir d'achat de façon à ce que ça annule, compense, même surcompense, la question du coût de l'essence. Voilà, je la pose la question. Honnêtement, si t'as pas de problème de pouvoir d'achat, le fait que le prix de l'essence augmente et soit bientôt à 2 euros, c'est pas un problème. C'est parce que les Français sont déjà pris à la gorge de manière générale.
Donc
essayez, par d'autres contraintes, de redonner la respiration financière aux Français, du pouvoir d'achat, en jouant sur d'autres leviers.
Voilà. Regardez les derniers relevés pour le gasoil, c'est 1,79, ça a pris en une semaine 2 centimes et demi. Et pour le 95 éthanol, 1,89 et ça a pris 3 centimes. Et d'après les experts, ça va continuer de prendre entre 2 et 3 centimes toutes les semaines.
Le problème, c'est 2 euros sur les autoroutes depuis longtemps.
Ah oui, bien sûr. Et puis pompes intramuros aussi. Ouais.
Le problème des députés, en tout cas du gouvernement, c'est qu'ils sont capables justement d'énumérer les solutions qu'ils ont prises pour que les Français vivent mieux et pour que ça aille mieux. Mais sauf que les Français, eux, considèrent que leur niveau de vie et que leur quotidien se dégrade. On exclut, par exemple, dans la question du pouvoir d'achat, la question du logement, qui est, comme disait Jean-Loup, une impossibilité de respiration quand on voit le prix du logement. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture tentent de venir habiter dans les grandes villes où le logement est inaccessible. Quand tu as 60% de tes revenus qui sont grévés par le logement...
Le loyer ou le remboursement.
Le loyer ou le remboursement, c'est un vrai problème. Et comme les questions de fond c'est-à-dire les questions de fond, à la fois de la question économique sur tout le territoire, comment on disperse l'économie, en tout cas la richesse sur le territoire, et comment on fait en sorte que les gens soient logés de manière décente avec des loyers accessibles et abordables. Eh ben, en fait, on peut mettre l'essence à 1,50€, on n'aura pas réglé le problème.
On va en parler avec Laurent qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Cadre commercial dans la métallurgie, donc quand vous passez à la pompe, ça donne quoi?
Bah là, j'ai fait un plein tout à l'heure à 1,81€. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit monsieur le député. Je pense qu'il ne doit pas être député de la France, ce monsieur. D'ailleurs, on parle de pouvoir d'achat. Les gens ont du mal à faire le plein. Ils se sont augmenté leurs émoluments au niveau de leurs dépenses mensuelles de 300€.
Leurs frais de représentation.
Ça fait 300€. Ouais. Ça fait 3-4 pour un Français normal. Et 700€ au Sénat. Donc, c'est pas tout le monde qui serre la ceinture. Il a parlé du fait qu'aujourd'hui, on a décorrélé l'électricité du gaz. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est 2027 que l'on va revoir, le marché européen de l'énergie. Donc aujourd'hui, l'électricité est toujours corrélée au prix du gaz. La chance qu'on a, c'est que le prix du gaz est descendu bien en deçà de ce que l'on a connu les deux dernières années. Mmh. Donc là-dessus, il nous ment. Il a demandé à l'Europe que l'on revoie ça, mais le merit order est toujours en place. Ce qu'il oublie de dire tout simplement, c'est qu'il met une TVA sur des taxes et il remet une TVA à la fin de la facture. Bon, ça, se dit en passant, c'est la France, on a l'habitude. Deuxième point, en France...
Oui, c'est la fameuse taxe aussi, pardon, mais c'est la taxe pour financer la transition énergétique aussi.
Hein, oui, c'est le sapin de Noël.
C'est la taxe sur la TVA, oui, c'est ça.
Oui, c'est le sapin de Noël des Chinois. 4500 balles, avant c'était 6000€ pour une voiture électrique avec une valeur ajoutée de 40%. C'est en Asie, ça on oublie de le dire, des panneaux solaires qui viennent de Chine ont tué le marché, les éoliennes vont commencer à venir de Chine ou autre, et on fait le sapin de Noël des Chinois. Donc il faut arrêter, l'argent que les Français gagnent aujourd'hui repasse, qui est passé dans les impôts et passe en offre d'achat pour des véhicules dont la valeur ajoutée n'est même pas faite en Europe.
Surtout que les salaires, je sais pas chez vous Laurent, mais dans votre entreprise... Mais les salaires n'ont pas beaucoup augmenté, quoi.
Donc, ben nous, les salaires n'augmentent pas. Et puis, si on s'achète un costume, on le paye nous-mêmes. Il passe pas dans les frais de représentation. Les commerciants ont des voitures, ils payent la taxe des avantages nature. Je pense pas que la voiture avec chauffeur, nos députés et sénateurs, ce soit le cas. On a des règles sur les nuits d'hôtel. On a des règles, on dépasse pas un certain montant lorsque l'on va au restaurant. Nos clients n'acceptent même plus un stylo publicitaire, vous voyez. Donc aujourd'hui, on a tiré un peu partout sur la corde. Je voulais dire aussi, en France, on a la chance. Aujourd'hui, on a un problème avec nos agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie. On pourrait faire du biocarburant à partir de betteraves, à partir de colza. On a du HVO en Europe. Ce sont des graisses usées qui sont réutilisées. Pourquoi on ne l'a pas en France ? Mais oui, aujourd'hui, les huiles McDonald's, on les retrouve dans du diesel. On peut faire tourner des véhicules. Vous avez Audi en Allemagne qui a fait une expérience sur des véhicules. 50 000 km, les rejets de CO2 sont plus bas qu'avec un diesel classique. Donc, on a
des solutions. Il faut développer les alternatives, c'est ce que vous dites.
Bien sûr, sur le territoire européen, à la rigueur aussi. Bioéthanol, HVO, on a des solutions aujourd'hui. Il faut juste les mettre en place. Mais comme c'est du produit agricole, ce ne sera pas la même taxation et la manne financière ne sera pas la même pour l'État. Donc aujourd'hui,
priorisons... Vous inquiétez pas, elle rejoindra très vite l'autre.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prioriser tout cela. La voiture électrique, aujourd'hui, c'est bien en campagne, en deuxième véhicule, quand vous avez une prise à la maison. Vous n'allez pas, déjà dans les copropriétés, pour beaucoup de personnes, c'est la croix et la bannière. Et puis acheter un véhicule 35 ou 40 000 euros pour une famille qui gagne, on va dire, 2000 balles par mois, c'est pas possible.
Oui, parce que ce que nous disait le député, c'est qu'on pousse aussi les gens vers cette transition.
Non, mais le parc
transition automobile, à acheter des voitures hybrides ou des voitures électriques.
Toutes les projections.
Vous avez entendu, je voulais juste ajouter une chose parce que ça tient à cœur. Vous avez une aciérie aujourd'hui qui est en difficulté en Moselle. Bon, c'est un de mes concurrents. Mais aujourd'hui, on n'a plus de bâtiments. Donc quand vous n'avez plus de bâtiments, on construit plus de pelleteuses, plus de bulldozers, plus de quoi que ce soit. Donc ça tue l'emploi. Ça tue l'emploi dans la métallurgie, dans les aciéries, dans les forges, chez les usineurs, le traitement de surface. On a tué l'industrie automobile. Vous voyez où viennent nos voitures. Elles sont faites en Espagne, en Slovénie, de plus en plus vers l'Est. Aujourd'hui, il n'y a plus de fer à béton, de produits en France sur une base de ferraille. Donc c'est un cycle vertueux. On a des fours électriques, on prend des ferrailles, on sort du fer à béton, des pièces de pelleteuses, des choses comme ça. Le marché, il est à tonne, il n'y a plus rien. Donc on crée même plus de valeur ajoutée qui demain pourrait abonder par les taxes prélevées au but de l'État. Ils sont en train de tarir toutes les sources aujourd'hui de revenus des Français, qui sont en même temps les revenus de l'État. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait en France pour élire des nuls pareils, à part contempler les fondements, si je parle de notre ministre de l'économie aujourd'hui.
Oui, et de ses œuvres littéraires, c'est ce que vous voulez dire.
Ça, mais aujourd'hui, il faut créer de la valeur ajoutée, mais ils sont en train de tuer, ils tuent l'industrie. L'industrie, c'est pas beau, c'est sale. Hein, y a plus, vous n'avez plus de plombier, vous n'avez plus de couvreur. Il n'y a plus rien qui peut amener de la richesse aujourd'hui sur le pays. Donc,
leur façon de faire est très symbolique. Le fait de faire un chèque aux gens qui ont trop à payer dès l'instant où le tarif des carburants explose est pantognomonique de leur façon de voir les Français. Enfin, les Français font pas l'aumône, quoi. Les Français, ils veulent pouvoir vivre, ils veulent pouvoir calculer leur budget sur les dépenses qu'ils ont, et ils veulent pouvoir ne pas être étranglés par les taxes. Mais leur donner un chèque parce que les taxes explosent, il vaut mieux limiter les taxes et ne pas avoir à donner ce chèque. Parce que c'est une insulte aux Français, ce truc-là.
Par soi-même, que l'État montre l'exemple.
Et qu'on arrête avec les véhicules de fonction, les appartements de fonction, les etc., etc. Ils payent, ils sont députés, ils sont ministres, etc. Ils payent, et le salaire qu'on leur donne leur permet de payer, mais ils payent.
Mais moi, je pense qu'ils devraient, comme tout un commun, aujourd'hui, avoir une taxe sur les avantages nature. Comme ça, ils abonderont eux aussi par le biais de leur mission et de certains éléments mis à leur disposition pour accomplir leur mission, comme c'est le cas de tout un tas de personnes en France. Il faut les assujettir à la taxe sur les avantages. Laurent. Comme ça, on fera une présentation d'une certaine égalité. Sinon, après, le reste, c'est le communisme. Hein. Donc, on met tout le monde au même niveau et puis on fait des chèques.
Laurent, voilà. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée, bonne route. Vous roulez combien par mois ou par an, Laurent?
Par an, on a beaucoup diminué depuis la crise Covid, mais c'est entre 40 et 50 000 km par an. Il faut aller les chercher, les commandes, hein, aujourd'hui.
Bien sûr. Laurent, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. C'est cadre commercial dans la métallurgie. On vous a posé la question, le prix du carburant remonte, donc est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on demande un chèque ou est-ce que... Allez, c'est 75%, on fait avec, on a un petit problème de graphie. 75% des Français plutôt résignés, plutôt fatalistes en disant de toute façon, on fait avec. Allez, avec Jérôme Marty, avec Zora Bitton, avec Jean-Loup Bonamy, dans un instant, on va s'intéresser à cette vidéo qui a fait plus de 30 millions de vues. Un couple de Français dans la sphère complotiste qui refusent le contrôle de gendarmerie, qui montrent des faux papiers et qui disent on ne contrôle pas et qui estiment qu'en fait
on ne contracte pas
et qui estiment qu'en fait l'État français depuis très longtemps n'est plus un État et est devenu une entreprise privée. Alors très franchement, est-ce qu'on doit en rigoler? Est-ce qu'on doit en rigoler ou est-ce qu'au contraire on doit plutôt s'inquiéter de ce genre de thèse complotiste qui commence à prendre de l'espace.
Il ne manquait plus qu'eux, en fait.
Eh ben, venez en parler au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'est ça, ouais. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous savez, vous pouvez retrouver les grandes gueules en podcast via l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous retrouverez ainsi les off des GG pendant les petites discussions, pendant les pauses publicitaires ou les petites anecdotes qui sont recueillis par Anaïs Sainz, notre productrice. Je ne contracte pas les complotistes. La vidéo a été vue plus de 30 millions de fois. On va prendre 10 minutes pour en discuter avec vous au 32-16.
RMC.
GG, 7 et match.
Ce sont deux automobilistes qui sont retrouvés soumis à un contrôle routier. C'était lundi dernier sur la commune d'Esquelbecq. Vont d'ailleurs passer devant le tribunal de Dunkerque parce que lors du contrôle routier par les gendarmes, ils ont refusé de montrer leurs papiers, ou plutôt ils ont montré des faux papiers. Et voilà ce qu'ils disaient, nous n'appartenons plus à l'entreprise République Française Présidence, on ne contracte pas. Écoutez, regardez.
Je dépends de la juridiction de la commune Lecourt, tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Ben, alors sachez que le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi et c'est qu'un arrêté depuis 1922, non signé dans le journal officiel du code civil français. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Ben oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Duns & Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français.
C'est des routes privées alors.
La départementale est inscrite au Duns & Bradstreet aussi, toutes les mairies aussi d'ailleurs.
Donc le contrôle, il n'y a pas lieu. On ne contracte pas.
On ne contracte pas.
On ne contracte pas.
On ne rentre pas en contrat avec vous.
Bon, au bout d'un moment, les gendarmes s'énervent, voilà. Et ils brisent la vitre, et puis vous sortez du véhicule, taux d'alcoolémie, les papiers, ils ont des espèces de fausses cartes d'identité. Enfin, leur raisonnement, c'est de dire que depuis 1947, la République française n'existe plus et qu'elle a été vendue à une société privée. Tout ça est géré par une espèce de gouvernement mondial.
De holding mondial.
Installé aux États-Unis. Alors, c'est une vraie mouvement, ce complotiste. Qui exerce depuis très longtemps,
les airs de souverain, ouais.
Qui exerce aussi aux États-Unis pour dire que l'État nous a vendu, les États.
Et il nous
vendu.
Plus alors, qu'une invasion de Martiens, et on est bon là.
En fait, et derrière, c'est pour dire qu'en fait, l'État, en plus, volerait secrètement à chacun de ses administrés son nom légal, sa personnalité juridique, et que c'est en complicité avec des fonctionnaires, des magistrats, bien sûr, les banquiers et les médias, dans un but de contrôle total. Alors. Ce couple qui dit on ne contracte pas, est-ce qu'on doit plutôt se marrer, plutôt en rire, ou ça doit au contraire nous inquiéter, sachant que très récemment, il y avait un sondage qui était sorti pour montrer que 33% des Français adhèrent à certaines théories complotistes. Alors Jean-Loup Bonamy, le fameux « je ne contracte pas », ça te prête à sourire ou pas ?
Je ne contracte pas avec vous, Alain Marchal. Laissez-moi tranquille, je ne contracte pas avec l'entreprise Alain Marchal. Alors, plus sérieusement, j'ai plusieurs remarques à faire. La première remarque, j'en parle souvent à propos de différents sujets, c'est un peu l'une de mes marottes, mais on voit bien là l'américanisation, et y compris l'américanisation des complotistes. Parce qu'en fait, c'est simplement une traduction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit ces expressions un peu bizarres. Je ne contracte pas, parce qu'en fait, c'est des transcriptions quasi littérales de ce qui se dit en anglais. Et ça vient des mouvements complotistes américains qui donc là sont transcrits, retraduits, répercutés sur le sol français. Donc même eux, et surtout eux peut-être d'ailleurs, s'américanisent. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que c'est des mouvements qui peuvent... alors. Là, ça fait sourire, mais qui peuvent nous emmener assez loin, on le voit aux États-Unis, soit dans le cadre de la violence politique et de l'extrémisme politique, c'est-à-dire des cas aux États-Unis, de groupes qui deviennent des milices, en fait, soit et d'ailleurs l'un n'exclut pas l'autre, soit de dérives sectaires. C'est-à-dire là, la porte est quand même ouverte à tous les gourous, à tous les délires sectaires. Aussi, sur le plan thérapeutique, il y a beaucoup de gens qui vont refuser les traitements conventionnels s'ils sont malades, etc., etc. Donc, à première vue, quand on voit les deux hurluberlus qui ne contractent pas, ça nous fait rire, mais en fait, ça peut nous amener vers des choses assez dangereuses. Troisièmement, je crois qu'ils n'ont pas compris ce qu'était un État, justement, c'est la définition que le sociologue allemand Max Weber donnait de l'État, qui est le monopole de la violence légitime. Ça, ils n'ont pas bien compris. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les gendarmes les ont sortis de force et les ont forcés à contracter, si je puis dire. C'est ça qu'ils n'ont pas bien compris. Et enfin, le dernier point, je me permets quand même une remarque, c'est que le complotisme, c'est inquiétant, mais c'est nourri par ce que j'appellerais une sorte d'anti-complotisme primaire. Je vais donner des exemples. Par exemple, au début de la guerre en Ukraine, le pape François a dit « Il y a des bases secrètes de la CIA en Ukraine ». Immédiatement, les bonnes âmes l'ont traité de complotiste. Aujourd'hui, c'est établi, c'est reconnu par la presse, le New York Times, etc., qu'il y a 12 bases de la CIA en Ukraine. Quand il y a eu le sabotage du gazoduc Nord Stream, ceux qui ont été accusés, les Américains, ont été traités de complotistes. Bon, aujourd'hui, ça a été établi par la presse américaine elle-même, le New York Times, etc., que c'était bien une action de la CIA avec le concours de la Royal Navy britannique et des Norvégiens, etc., etc. Donc, disons qu'une certaine forme d'anti-complotisme radical de principe nourrit aussi le complotisme et que c'est un peu deux monstres qui se font face et qui s'encouragent l'un l'autre. Voilà. Faut pas voir des complots partout et tomber dans la théorie délirante du « je ne contracte pas » et faut pas non plus penser qu'il y a jamais de complot parce que il y en a des fois. Voilà. Histoire de l'espionnage recèle d'histoire de complot.
Enfin, en face, enfin.
Non, mais ils sont plus tarés en face. Oui, je suis d'accord.
Oui,
je suis d'accord.
Oui, ce que je veux dire, de toute façon, le complotisme, ces dernières années, il est XXL. Genre, quand on pense que 17% des Français pensent que la Terre est plate, on rajoute les bigots qui pensent que le divin est au-dessus de tout, et on rajoute ces hurluberlus et les antivax et j'en passe. Ça fait quand même un paquet de monde additionné. Parfois, il y a des coalitions entre eux. Mais ce complotiste, il est non pas uniquement nourri par le fait que les pouvoirs nient un certain nombre de faits, même si c'est marginal, mais le fait de nier, ça amplifie le complotisme. Il est aussi le fait de la perte totale de confiance en ceux qui nous dirigent. Ils sont par essence des menteurs. Ils sont par essence des voleurs. Ils ne changent pas nos vies, ils changent leur vie. Et à partir du moment où tu défends ces théories, tu t'exclus totalement du collectif. Et dans ce collectif, il y a tout un paquet de gourous, parce que s'il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de gourous. Et il y en a qui ont la bonne idée de devenir gourous parce qu'ils savent qu'il y a un terreau de disciples à qui tu vas pouvoir raconter n'importe quoi. Donc forcément, pour passer de ce monde de complotistes qui sont de plus en plus nombreux sur des niches assez importantes, parce que finalement les thématiques sont vastes aujourd'hui, hein, t'es plus complotiste, la Terre est plate, t'es plus complotiste, croyant, t'es complotiste dans plein de sujets, la naturopathie, tu vas soigner des cancers avec des herbes, etc. À la fin, si on additionne tout ce monde-là,
ça fait du monde
et c'est extrêmement dangereux.
D'ailleurs,
c'est extrêmement dangereux.
Donc, faut pas en rire des deux oiseaux.
D'ailleurs, Olivier Truchot a quitté les grandes gueules pour devenir gourou.
Oui, il est parti en disant à bientôt pour contrer
beaucoup plus riche sa retraite, et refuse de contracter là. Truchot ne contracte plus.
Jérôme Marty. Donc, on doit pas rire du couple de zozo qu'on a vu là.
Non, parce que là, c'est le couple de zozo qui est ni plus ni moins que l'émergence visible de la chose. Mais oui. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est le point de départ, comment ça se développe. Ça fait des années que ce mouvement existe, des années qu'il étend ses ramifications sur le monde entier, et on peut le comparer à QAnon, quoi. QAnon qui au départ était quelques hurluberlus et qui maintenant ont plus de 20 sénateurs aux États-Unis, qui est devenu un parti politique, qui a envahi le Capitole, qui a des liens ténus avec le Trumpisme, et on voit bien que donc il y a une exploitation par le biais des réseaux sociaux de gens qui sont facilement, on va dire comme ça, mobilisable, trompable, manipulable, et on finit par en faire des outils de déstabilisation de nos démocraties, parce que souvent derrière, tu as, oui, des partis politiques et tu as des puissances étrangères. Les fermes à bottes que l'on connaît sur les réseaux sociaux, où l'on fabrique des faux comptes pour initier des fake news et pour aller manipuler des gens, ça participe du même raisonnement. Et ils vont taper sur les gens toujours les plus faibles en leur faisant croire tout un tas de choses, et ça déstabilise les démocraties.
C'est le même raisonnement qu'au moment de la vaccination et de Pfizer. On nous vaccine l'ADN, on veut modifier.
Quand tu vois que tu as des liens ténus encore une fois entre les mouvements anti-vax, les mouvements pro-Poutine, etc. C'est pas du hasard, si tu veux. Il y a derrière des gens qui. Alors on pourrait faire du complotisme dans le complotisme presque en disant ça. Mais tu as derrière des puissances étrangères qui cherchent à déstabiliser les démocraties, quoi.
Enfin là, c'est deux zozos. Il y a pas de puissance.
C'est l'émergence. C'est pas eux qui déstabilisent, mais eux ils sont les outils de ça, quoi. Ils sont les outils. Le problème des réseaux sociaux, c'est les algorithmes. C'est que dès l'instant où tu commences à t'intéresser à ces choses-là, d'accord, les algorithmes ne t'envoient que de ces choses-là. Et tu te fais enfermer dans une espèce de labyrinthe dont tu ne peux plus sortir. Et les seules informations que tu as, c'est ces fake news-là. Donc ton monde finit par être constitué à 90% de fake news.
Et le pire, c'est que ça touche tous les niveaux intellectuels. Mais oui. C'est-à-dire que c'est ça qui est dingue, c'est que je me souviens, moi, dans les anti-vax, il y avait des gens de très bon niveau. Ils n'étaient pas que des ouvriers, des employés. C'était des gens.
Sur les anti-vax, tu pouvais à un moment avoir une discussion sur la manière dont ce vaccin avait été mis au point rapidement. Est-ce que oui ou non il protégeait de la maladie,
ça, oui,
etc. En disant, écoutez, moi je préfère attendre. Il y avait même un débat au sein même de la communauté scientifique pendant un temps. Et après, sans pour autant aller vers les théories délirantes. Or là, on va vers les théories délirantes. Et plus ces gens-là sont attaqués, plus on dit, mais regardez, plus on nous attaque, plus ça veut dire que nous avons raison.
Ah non,
puisqu'on cherche à nous faire taire.
Dans leur schéma, c'est pas délirant, puisqu'on leur donne une réponse à tout. On leur montre qu'il y a effectivement l'entreprise française, enfin, l'État français est devenu une entreprise qui était inscrite à tel registre du commerce avec le numéro. Et chaque point trouve une réponse. Donc c'est extrêmement bien construit, et c'est construit par des gens qui travaillent là-dedans.
Non, mais justement, parce que ça chauffe un peu au 32-16.
Ah.
Au téléphone. Au standard, comme vous pouvez vous en douter.
Les gens, ils veulent contracter.
Et voilà. Et dans un instant, on aura. Alors, on va continuer la discussion avec Nicolas, parce que Nicolas nous a appelé en disant, il est syndicaliste et il est ce qu'il appelle citoyen souverain.
Ah ben voilà.
Voilà.
Il va me paraît totalement incompatible d'être à la fois syndicaliste dans un mouvement organisé et structuré et en même temps membre de
on va en parler avec lui.
Bon, peut-être le syndicat de
donc vous avez vu ce couple. La vidéo avait été vue plus de 30 millions de fois sur les réseaux sociaux. Qui estime que la République française n'existe plus, qu'elle a été vendue, que bon nombre de pays aujourd'hui sont des entreprises privées qui récoltent les données. Alors est-ce qu'on a affaire à des véritables zozos? Ou est-ce que c'est inquiétant comme ce qu'on voit aux États-Unis? Dans un instant, Nicolas, il se présente comme un citoyen souverain et il va nous expliquer ça.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.